Le journal de François Comte.
Madame, Monsieur, bonsoir. Saint-Ursanne fait partie des meilleurs villages touristiques du monde. La cité médiévale jurassienne a obtenu aujourd'hui un label international. Elle pourra bénéficier de campagnes médiatiques mondiales pour renforcer sa visibilité. Les vacances d'automne, un moment propice pour les stages en entreprise. Dans le Jura, de nombreux jeunes en profitent pour prendre contact avec le monde du travail, avec parfois un futur apprentissage à la clé. Les exportations horlogères suisses continuent à progresser malgré un léger tassement. La Fédération de l'industrie horlogère évoque une normalisation attendue. La croissance reste au-dessus de 8% depuis le début de l'année. Météo, les averses devraient s'intensifier dans le courant de la nuit. Un temps nuageux et pluvieux est prévu demain, surtout le matin. Des éclaircies seront possibles dans l'après-midi. Il fera entre 11 et 16 degrés maximum. Une distinction internationale pour la perle du Jura, Saint-Ursanne a été retenue parmi 260 candidatures pour faire partie des meilleurs villages touristiques du monde. L'Organisation mondiale du tourisme a annoncé aujourd'hui les 53 localités labellisées lors de l'Assemblée générale annuelle qui s'est tenue en Ouzbékistan. La cité médiévale et les autres villages primés bénéficieront notamment de campagnes médiatiques internationales. L'obtention de cette distinction n'est pas anodine, comme l'explique le directeur de Jura Tourisme, Guillaume Lachat.
C'était une candidature qu'on avait faite au printemps pour Saint-Ursanne. C'est une candidature qui est tournée vers le développement des villages ruraux à l'échelle du monde entier, selon les perspectives du développement durable et les objectifs qu'il concentre d'un point de vue économique, écologique, sociétal. Donc, c'est un titre qu'on reçoit, qu'on gardera à vie à l'échelle de Saint-Ursanne. Donc, c'est une belle récompense pour les prestataires touristiques, pour les entreprises, pour les autorités communales et cantonales qui ont veillé à préserver le patrimoine bâti de Saint-Ursanne. Et puis, c'est aussi, quelque part, un engagement qu'on a pour la suite du développement touristique à l'échelle de Saint-Ursanne. Il ne s'agit pas de faire de Saint-Ursanne une destination touristique avec 10 fois plus de visiteurs. Ça va certes apporter une belle visibilité, mais on doit continuer de le faire selon les perspectives du développement durable qui nous ont permis à ce jour d'obtenir ce titre. Et puis qui continueront d'assurer un développement, je dirais, régulier de Saint-Ursanne d'un point de vue touristique.
Et depuis 2021, l'Organisation mondiale du tourisme a décerné son label à 130 villages répartis sur les 5 continents. Avec Saint-Ursanne et Morcote au Tessin, la Suisse en compte désormais 7. L'aéroport de Balmulhouse, qui se trouve sur le territoire français, a été évacué en début d'après-midi en raison d'une alerte à la bombe. 14 aéroports français ont reçu des menaces et au moins 8 ont été évacués aujourd'hui. Le trafic aérien est interrompu à l'aéroport, à l'Euroairport, et les passagers ont été évacués par des bus dans des points de rassemblement à l'extérieur du site. Des moyens de contrôle et de vérification ont été engagés pour un retour à une situation normale dans les plus brefs délais, a indiqué la préfecture du Haut-Rhin. La revitalisation de la tourbière de la Gruyère a pris du retard, mais le gouvernement jurassien veut faire avancer le projet. L'exécutif a récemment répondu à une question écrite posée par Bernard Studer. Le député du centre lui avait demandé de fournir un calendrier actualisé et s'inquiétait d'une importante surcharge de travail à l'Office de l'environnement. Bernard Studer avait également enjoint le gouvernement à expliquer les mesures qu'il entendait prendre pour rattraper le retard. Alexandre Rosset détaille la réponse de l'exécutif cantonal.
Le gouvernement indique tout d'abord avoir accepté ce printemps de renforcer le domaine nature de l'Office cantonal de l'environnement. Une personne a été engagée pour une durée de 3 ans pour mener à bien les travaux à la Gruyère. La Confédération a accepté de financer une partie du poste. Les prestations liées aux études du projet d'exécution et de suivi de chantier seront en revanche externalisées. L'exécutif reconnaît que les ressources humaines ont manqué pour avancer comme prévu dans ce dossier. Plusieurs départs ont d'ailleurs été enregistrés au sein de l'Office de l'environnement, dont celui du porteur de la thématique marais. En ce qui concerne le calendrier, les appels d'offres et le dépôt public devraient intervenir d'ici l'été 2024. Les travaux seront ensuite réalisés par étapes en fonction des conditions météorologiques. Ils devraient s'étaler sur au moins 3 ans.
Et le Parlement jurassien avait accepté un crédit de plus de 5 millions de francs en février 2022 pour le projet de revitalisation de la tourbière de la Gruyère. Le chantier fait toutefois l'objet d'un large soutien financier de la Confédération et de fondations privées. Un conducteur a pris la fuite dimanche à l'entrée de Delémont en laissant des stupéfiants derrière lui lors d'un contrôle de douane. Plus d'un kilo de haschich et 100 grammes de cocaïne ont été retrouvés à l'intérieur du véhicule, de même qu'une matraque télescopique et un spray au poivre à grande capacité. Le conducteur de la voiture immatriculée en France a abandonné son véhicule à la vue de la patrouille de douane. Il s'est enfui dans un bois avoisinant et n'a pas pu être retrouvé. Une instruction a été ouverte par le ministère public jurassien. Les vacances d'automne sont souvent l'occasion pour les jeunes d'effectuer des stages en entreprise. Le procédé peut servir à trouver une future place d'apprentissage ou simplement à découvrir un métier, l'environnement de travail. Les stages sont vivement encouragés par les écoles. Certains jeunes n'hésitent pas à porter les habits de travail durant les vacances d'octobre pour se plonger dans leur futur métier. C'est le cas de Théo Schluchter. Le jeune homme de Châtillon effectue son troisième stage à la menuiserie de la Vallée à Delémont. Émilie Charmillol a rencontré cet après-midi entre scie et planche de bois.
Ça joue, Théo, si tu peux juste nettoyer ces portes avec le produit.
Oui, oui.
Ouais, avec le chiffon comme ce matin. Et puis une fois qu'elles sont prêtes, après tu pourras les mettre sur le chariot à côté, juste là. Et puis après tu peux juste venir m'appeler, je vais t'aider pour te donner la suite. Ça joue ? Nickel.
Théo, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire ?
Je suis en train d'enlever la crasse qu'il y a sur les portes pour que le client il soit content de la propreté.
C'est un peu fatigant comme job ?
Non, celui-là ça va.
Qu'est-ce que tu aimes dans ce métier de menuisier ?
Le manuel, travailler en équipe et le bois.
Qu'est-ce que tu attends de ce stage ? C'est quoi tes attentes ?
Que je me donne à fond, que j'ai une bonne amitié avec les collègues et c'est tout.
Quels seront tes points forts pour faire ce métier ? Tu penses que tu seras bon pour quoi ?
La cohésion de groupe, aussi le travail individuel. J'aime bien que ça fasse les trucs comme il faut et tout ça.
Et puis c'est pas ton premier stage ? Pour toi c'est important de faire des stages ?
Ouais, pour être sûr de choisir sa profession. Parce que on va faire presque ça toute notre vie et faut bien choisir.
Et puis là t'es sûr de ton choix ?
Ouais, sûr.
Jean Mercet, vous êtes formateur d'apprentis. Au niveau des demandes de stage, est-ce que vous remarquez qu'elles augmentent ces dernières années ?
Je ne sais pas si elles augmentent vraiment, mais ça fait en tout cas 2-3 ans qu'on a à peu près entre 10 et 15 demandes par année, mais ça aboutit à peu près entre 7 à 10 stages. Moi, je pense qu'il y a aussi un peu certains métiers qui sont plus attrayants que d'autres à certaines périodes.
Et est-ce que vous devez faire des fois un tri parce que vous avez trop de demandes pour une place de stage ?
Alors, pour les places de stage, on fait pas forcément un tri, comme je dis, on accepte à peu près tout le monde. Mais voilà, des fois, on ne met pas deux stagiaires en même temps. S'il y a des dates qui se chevauchent, on essaye de s'organiser différemment. Après, c'est au niveau des demandes de places d'apprentissage, surtout les 11e Armos, quand ils arrivent aux vacances de Pâques, ils sont des fois un peu plus stressés à trouver leur place d'apprentissage. Et puis là, on a un peu de la sélection à faire si on n'a pas encore notre apprenti qui est choisi.
Et de manière peut-être plus générale, est-ce que les métiers du bois, vous trouvez que ça attire les jeunes ?
Je pense que c'est surtout une question de motivation personnelle par rapport aux jeunes, mais aussi des fois un peu une question de mode, comment les métiers font leur pub, voilà, qu'est-ce qu'on a besoin en ce moment comme main d'œuvre dans différents métiers, et puis on a toujours de l'attrait pour notre métier, ça c'est sûr.
Un reportage réalisé par Émilie Charmillot. La journée de demain sera importante pour Théo Schluchter puisqu'il signera son contrat d'apprentissage de menuisier. Les 7 prévenus de la bande de jeunes de La Chaux-de-Fonds qui avaient eu maille à partir avec une bande rivale de Bienne connaissent leur sentence. Les juges neuchâtelois ont rendu leur verdict aujourd'hui après 3 jours de procès. Ils ont prononcé des peines de prison qui vont de 10 mois avec sursis à 2 ans et demi ferme. Les jeunes hommes étaient accusés d'avoir séquestré et tabassé un jeune biennois en mars 2021. Le tout sur fond de tension avec la bande rivale célandaise. Les juges neuchâtelois ne se sont pas alignés sur les demandes du ministère public. Les précisions de Damien Piscopiello.
Mardi, la procureure avait requis 7 ans de prison contre le principal accusé. Les juges l'ont finalement condamné à un emprisonnement de 2 ans. Il en est allé de même pour les autres prévenus qui ont aussi vu leur peine réduite. Le président du tribunal a donné plusieurs raisons pour expliquer cette décision. Tout d'abord, il a rappelé que l'omerta et le nombre de personnes impliquées avaient rendu l'enquête difficile. La cour a dû s'en tenir aux faits, a-t-il déclaré. Sur ces bases, 6 des 7 prévenus ont été disculpés d'avoir agressé la victime. Les juges ont également tenu compte du jeune âge des accusés au moment de fixer les peines. Ils n'ont pas voulu rendre impossible leur réinsertion professionnelle et sociale. Enfin, le ministère public avait requis l'expulsion du territoire pour 5 des 4 prévenus. Les juges n'en ont prononcé finalement qu'une contre le jeune homme se trouvant déjà à l'étranger et absent lors de l'audience.
Les acteurs de l'horlogerie suisse gardent le sourire. Les exportations ont encore augmenté le mois dernier par rapport à la même période de 2022. C'est ce qu'indiquait aujourd'hui la Fédération de l'industrie horlogère suisse dans son rapport mensuel. La croissance se tasse toutefois légèrement, mais pas de quoi s'alarmer. Plus de détails avec Séverine Boé.
Les exportations horlogères suisses continuent sur leur lancée et leur progression. Elles ont augmenté de 3,8% par rapport à septembre 2022 et ont atteint un niveau de 2,3 milliards de francs. Toutefois, les marchés ont évolué dans des directions opposées, précise la Fédération de l'industrie horlogère suisse. La Chine et les États-Unis ont vu leurs résultats diminuer, tandis qu'à Hong Kong, il a fait un bond de 24%. Comparable à la tendance observée au mois d'août. Certaines gammes de montres plaisent aussi plus que d'autres. Celles de moins de 200 francs et de plus de 3000 francs affichent respectivement des hausses de 4,3 et 8,2%. En revanche, le segment 500-3000 francs a lui reculé de plus de 10%.
Les Suisses ne voteront pas une nouvelle fois à propos de l'aménagement du territoire. Le comité de l'initiative Paysage a retiré son texte aujourd'hui. Il se dit satisfait de la LAT 2, soit l'adaptation législative qui limite strictement la construction et la transformation de bâtiments hors des zones à bâtir. Le comité d'initiative estime que la loi est un bon compromis qui préserve le paysage. La directrice de campagne de l'initiative Paysage, la Tessinoise Elena Strozzi.
C'est un compromis que, selon nos yeux, c'est tout à fait acceptable. Elle contient, cette nouvelle loi, le but de stabilisation du nombre de bâtiments hors zone à bâtir. Et ça, c'était vraiment la demande principale de l'initiative Paysage. On a, c'est vrai, dans la loi qui a été acceptée, aussi des possibilités supplémentaires de construire hors zone à bâtir, mais ces possibilités, elles sont quand même liées à des critères qui nous assurent justement qu'il doit y avoir une prise en compte de la biodiversité, de la culture du bâti, du paysage en soi. Donc, on arrive vraiment à un compromis qui est pour le comité d'initiative tout à fait acceptable. Et avec le retrait de l'initiative, on peut mettre en œuvre justement la loi beaucoup plus vite que si on aurait fait tout le processus par un vote populaire et encore une fois une révision au niveau parlementaire.
Et le comité d'initiative affirme vouloir s'assurer que la loi sera strictement appliquée dans les cantons qui devront revoir leur plan d'aménagement dans les 5 ans. À l'étranger, l'Égypte et la Jordanie ont réclamé aujourd'hui l'arrêt immédiat du conflit armé entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Une déclaration conjointe en ce sens a été faite par le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le roi Abdallah II de Jordanie qui se sont rencontrés au Caire. Les deux voisins d'Israël accusent l'État hébreu d'infliger une punition collective qui vise à affamer les Palestiniens et à les forcer au déplacement.
Il est 18h13.
Sport. En hockey sur glace, le HC Ajoie ne fera pas face à Denis Malguin demain soir. L'attaquant de Zurich va manquer le déplacement de son club dans le Jura. Il a écopé aujourd'hui d'une suspension d'un match de National League. L'attaquant a été sanctionné pour avoir percuté un juge de ligne samedi face à Ambry. Il doit également s'acquitter d'une amende de 3000 francs. Enfin au tennis, Jill Teichmann a été éliminée en 8e de finale du tournoi de Cluj-Napoca en Roumanie. La Biennoise de 26 ans s'est inclinée aujourd'hui face à la Colombienne Emiliana Arango en 2-7, 6-3, 6-3. Jill Teichmann avait signé hier son premier succès dans un tableau principal depuis fin juillet en battant la Belge Janina Wickmayer.